Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Mise à mal. Argent et gentleman. Parce que ça fait argentleman. Non mais ça c'est rien pour moi, hein, c'est un lundi.
Tes cheveux sont comme des coquillettes au beurre.
Mais ouais.
Ouais.
T'es une coiffure de petite vieille.
Oh, c'était un compliment dans ma tête, mais...
Mais mes cheveux frisent comme les cheveux d'une petite vieille, je trouve.
C'est pas ce que j'ai dit.
Mais... Si, Armel, t'es vraiment un salaud.
Bonjour, je suis Flo, bienvenue dans Mise à Mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'argent. Et le cliché que j'aimerais mettre à mal, c'est que les mecs doivent gagner la masse de blindasse. Et aussi, le mythe que je voudrais qu'on déconstruise, hashtag déconstruction, c'est que c'est le mythe de l'homme provider. C'est l'homme qui doit subvenir à tous les besoins de sa famille, de son foyer ou de son entourage. Et pour ça, j'ai des habitudes de la maison. Je suis avec Armen et Lucas. Comment vous allez?
Coucou, ça va très bien et toi?
Ça va, écoute, on enregistre le matin, j'avoue que c'est une énergie particulière, j'aime beaucoup. Lucas, est-ce qu'il y a quelque chose dont on ne s'attend pas de toi la première fois qu'on te rencontre?
Alors oui, tu sais que je n'étais pas préparé.
Je sais, c'est pour ça que je te saute dessus.
Ouais. Alors, je suis allergique à l'alcool, mais j'en consomme quand même. Parce que je suis un acharné, tu vois, je vais jusqu'au bout des choses.
Masochiste.
Exactement.
Et du coup, ça te fait quoi?
Ça me rend tout rouge et ça me fait bailler. Et du coup, je suis dans un état en gros où j'ai pas envie d'être là, tu vois.
Mais c'est contre-productif
de malade. Je me mets des bâtons dans les roues quand je suis en soirée. Mais au bout d'un moment, ça passe, tu vois, et je vis ma meilleure soirée. Surtout quand il y a de la cocaïne après. Et tout ce qui est. Enfin, c'est une blague. Maman, si tu écoutes ce podcast, je m'arrête à l'alcool premier.
Je suis pas allergique à la coke et je peux vous dire que son nez ressemble à un pot de farine. Eh bien, merci. Armen, est-ce qu'il y a encore des choses dont on ne s'attend pas de toi la première fois qu'on te rencontre?
Oh oui, toujours. Eh bien, je suis un homme à chats. J'adore les chats. Et cet été, j'ai eu 9 chats chez moi.
De toi? Que tu les as expulsés de ton utérus?
Je les ai eus, oui, moi-même. Et voilà, non, j'ai accueilli avec ma femme une petite chatte qui a eu une portée, une grande portée de 6 chatons. Et voilà, plus nos chats à nous. Voilà, donc là, on est en train de les donner petit à petit. Et là, il nous reste encore 4 à la maison. Mais voilà, on a été en infériorité numérique pendant très longtemps.
Dominé par les chats.
Voilà, et c'était merveilleux.
Ça a donné des, chats de race ou c'est des
Ah non, pas du tout.
C'est
des
petits bâtards.
C'est exactement, je prononcerai pas le mot parce qu'ils sont trop mignons et c'est connoté péjoratif, mais c'est tout à fait ça.
D'accord.
You know nothing, Jon Snow.
Nothing, Jon Snow.
Eh bien, très bien. Attaquons cet épisode sur les sous-sous. Je pense l'enfant.
Dans la
sur l'argent. Dans la popoche. Et pour commencer, je voulais vous demander aujourd'hui, quel est votre rapport à l'argent? La panique.
Personnellement, je suis dans une phase où je me remets beaucoup en question par rapport à ça parce que j'ai remarqué que l'argent régissait beaucoup de choses dans mes actions au quotidien, tu vois. Je me dis en fait souvent comment je fais pour avoir déjà une tranquillité financière, sachant que bah, pour rappeler on est tous les trois du coup indépendants.
Ouais.
Du coup bah on n'a pas de salaire qui tombe chaque mois et du coup personnellement moi ça omnibule mes pensées, même si j'ai tout de même une récurrence financière, etc. Mais au-delà de ça, j'ai envie qu'il y ait même de la croissance financière et du coup bah c'est une sorte d'accomplissement. Et je m'en suis rendu compte, en fait, il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est plutôt nocif au quotidien parce que, c'est pour moi, en tout cas, ce n'est pas une bonne manière de penser parce que créativement, ça te tue un peu, quoi.
Ouais, le fait d'avoir la croissance, c'est ça, croissance et créativité, c'est ouais. Ça qui toi, te semble...
En fait, pour moi, en tout cas, je ne me focalise pas sur les bonnes choses. Je ne me focalise pas sur créer de la valeur et créer des choses qui font plaisir aux gens. Je me focalise plutôt sur le... qu'est-ce qui est le plus rentable, qu'est-ce qui va rentabiliser le plus mon temps et qu'est-ce qui va me donner le plus d'argent en contrepartie de ce que je produis, quoi. Et en fait, cette mentalité-là, moi, me pousse à l'échec parce que je me dis, bah, je cherche toujours en fait, à être le plus efficace possible et à faire de moins en moins de choses, finalement. Tu vois. Alors qu'à la base, ce que je fais, j'adore et ça me pousse un peu à réfléchir de manière totalement naze sur l'argent, quoi.
Ouais. Et ça me fait penser juste, bon, on n'est pas dans les mêmes degrés d'aisance financière, mais Navo disait, donc Bruno Muschio, il disait que lui, il acceptait des projets et il se rendait compte des mois après, quand la paye tombait, qu'en fait, c'était rémunéré. Et je me dis, pour moi, life goal, en fait, de créativement, de dire putain, je fais ça parce que c'est fun et après, tu gagnes de l'argent. Mais après, lui, il a de quoi tenir. Je crois qu'il disait 2 ans en trésorerie, tu vois, s'il avait plus de contrat au partir d'aujourd'hui, il aurait 2 ans pour tenir. Donc, c'est pas le même.
Bien sûr.
Ouais, c'est pas la même mentalité.
J'aurai 2 semaines. Avant de mourir.
Vraiment. Moi, j'ai 24 heures, vraiment.
Bah, je te rejoins vachement sur le côté de se détacher de l'argent par rapport à la création. C'est vrai que, enfin, je me retrouve complètement dans ce que tu dis sur le fait de d'y penser vraiment beaucoup beaucoup. Et alors en ce moment, enfin c'est assez récent, donc je peux pas dire que ça y est, j'ai réussi à m'apaiser là-dessus. Mais en tout cas, j'ai réalisé il y a pas si longtemps que ça que j'avais besoin de pas tant d'argent que ça pour vivre. Et en fait, le fait de ne pas mettre de pression, justement, d'objectifs de croissance, enfin, de me rendre compte que mon bonheur n'était pas lié à la quantité d'argent que j'avais, enfin, à partir d'un certain minimum, hein, je dis pas l'argent ne fait pas le bonheur et tout, j'ai besoin d'un minimum tous les mois pour être heureux, pour vivre, mais je fais en sorte que ce minimum soit le plus bas possible. Et c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir me détacher, même si cette somme-là est encore relativement petite, mais il faut quand même que je la gagne. Et j'aimerais bien un jour pouvoir me détacher complètement en fait de l'argent, c'est-à-dire de me dire ne plus échanger mon temps, mes talents contre de l'argent, mais juste si y a un truc qui me plaît, et ben je le fais.
Ouais.
Alors bon, concrètement, du coup, le faire gratuitement, ça serait un peu de la concurrence déloyale, enfin bon, tout ce que tu veux. Mais en tout cas, dans un monde idéal, j'aurais tous les mois une certaine somme qui tombe. Et j'aurais pas besoin de réfléchir, est-ce que ce projet-là du coup il me tente, mais ouais c'est vraiment, ils ont pas de budget, c'est pas bien payé, ou est-ce que j'accepte ce projet-là, c'est vraiment très bien payé mais par rapport à mes valeurs c'est un peu limite, par rapport à ce que j'ai envie de véhiculer ça me correspond pas. C'est vrai qu'en tant qu'indépendant j'ai l'impression qu'on a quand même beaucoup ce, en tout cas dans les milieux créatifs. Alors j'en ai pas beaucoup autour de moi, mais je sais pas, j'imagine que par exemple tous les métiers dans l'informatique, graphiste, développeur ou ce genre de choses, je sais pas si c'est plus simple pour eux, je me rends pas compte, ça serait intéressant d'avoir un autre avis, mais en tout cas moi tous les gens autour de moi qui ont ce genre de profil artistique indépendant, il y a toujours ce truc de valeur contre l'argent, contre l'artistique, et c'est vrai que c'est compliqué de lier tout ça, quoi.
Et je sais que du coup vous avez tous les deux mentionné le mot croissance, donc je sais qu'on pour en avoir parlé séparément avec vous, c'est quelque chose qui était alors du coup toi Lucas t'as remarqué ça récemment, mais Armène on a eu beaucoup de discussions une période de il faut toujours que j'aille plus loin, que je fasse plus, que je gagne plus, etc. Et un jour t'as atteint un palier où t'as dit en fait c'est pas ça qui va faire mon bonheur. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là?
Bah, c'est que j'ai commencé à accéder à des... Enfin, il y a deux choses. J'ai commencé à accéder à des projets qui rapportaient plus d'argent. Ça, j'en avais parlé un peu déjà dans le podcast du travail.
Du travail, ouais. Saison 3, allez l'écouter.
Et en gros, voilà, je m'étais rendu compte que c'était trop de stress, trop de pression, et que même artistiquement parlant, j'ai l'impression qu'il manque...
Quatrième fois.
J'ai l'impression qu'il manque une syllabe. Non, c'est ça.
Artistiquement.
Ouais, c'est ça. Non, j'avais l'impression qu'il manquait une syllabe. Artistiquement parlant, c'était pas si intéressant que ça. Donc du coup, voilà, j'ai réalisé que j'étais plus à l'aise dans les plus petits projets, et aussi que gagner plus d'argent me rendait pas heureux, en fait, que j'en avais pas besoin. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais dépassé ce minimum, je sais pas si on donne des chiffres ou
c'est
si c'est intéressant,
si
ça me paraît intéressant parce que je pense que c'est plutôt bas par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre ou d'imaginer, mais en gros réalistiquement à partir de 2000 euros par mois, on va dire, sans compter les dépenses matérielles ou quoi pour mon métier, bah moi je suis complètement à l'aise, j'ai de quoi faire des loisirs, voilà, et c'est une somme qui est pas, enfin qui pour beaucoup de gens sera quand même beaucoup, mais c'est pas non plus un truc monstrueux, c'est quelque chose qui est atteignable. Et voilà, à partir de cette somme, enfin, au-dessus de cette somme-là, c'est de l'argent, en fait, que je vais quoi? Je vais soit mettre de côté, soit je vais, du coup, je vais dire, ah bah allez, j'ai bien travaillé, je vais me faire plaisir, et je vais m'acheter un truc qui, un mois plus tard, j'en aurai plus rien à faire. Donc voilà.
Tu peux aider des potes podcasters, peut-être?
Je peux aider. Bah, si ça va au-dessus, c'est pas suffisamment pour devenir mécène. Enfin, dans une certaine mesure, si. Mais, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de me rendre compte que c'était pas d'amasser de l'argent qui me rendra heureux, que c'était pas travailler le plus possible aussi qui me rendrait heureux, Et du coup, là, voilà, je me sens très apaisé. Alors, je change beaucoup d'avis, donc je dis pas, je vous inonde pas de ma sagesse, l'argent, tout ça. Peut-être que dans quelques mois, j'aurai une opinion complètement différente. Et il se trouve aussi que j'ai la chance de, voilà, d'être propriétaire de ma maison. J'ai même pu acheter un petit appartement que je mets en location, tout ça. Et c'est grâce à ça que du coup maintenant j'ai voilà, mais je suis pas dans cet objectif de croissance que j'ai pu avoir par exemple quand j'ai acheté ma maison en me disant bah allez dans 3 ans faut qu'on achète plus grand ou faut que j'achète je vais acheter un appart, 2 apparts, enfin ou des conneries comme ça. Là je suis bien comme ça et voilà, j'ai pas besoin d'aller plus loin, ça me suffit très bien pour l'instant.
Et Lucas, tu parlais d'une croissance, c'est quoi qui est lié pour toi à la croissance? Déjà ça symbolise quoi et en fait tu voudrais la croissance pourquoi quand tu y as réfléchi là récemment?
En fait, je m'accomplis en fait sur des codes sociaux, tu vois, qui arrivent au fil de l'eau, et je me dis, quand j'évolue dans des cercles, je me compare beaucoup, tu vois. Mm. Et j'ai ce truc aussi de me dire, ok, ce gars a acheté un appart, je dois être capable à son âge aussi de le faire. Une fois que c'est fait, tu rencontres d'autres personnes qui disent, bah, lui fait de l'investissement locatif. Donc, moi, je dois être capable de le faire également. Tu vois. Et en gros, je me dis, bah, il faut que j'évolue en fait, dans mon truc. Je ne peux pas stagner. En fait, c'est très bizarre, mais si, je me dis, si je stagne, même d'un point de vue créatif, j'ai pas forcément envie d'aller plus loin. Donc, je n'évolue plus, en fait. En fait, la croissance, c'est une simple, c'est juste le reflet de mon évolution, quoi.
Donc, ce que tu gagnes en argent, ça symboliserait ton évolution personnelle ?
En fait, c'est ça. C'est que je me suis aperçu que c'est simplement la rémunération de la valeur que j'arrive à fournir et de mon évolution, quoi.
Ouais.
Et en fait, il y a plein de formes de contrepartie autres que l'argent. Ça peut être, enfin, en fonction de ce qu'on recherche, évidemment. Ça peut être la notoriété si on est créateur de je sais pas quoi. Ça peut être aussi, je sais pas, même avoir un cercle d'amis un petit peu plus... plus fort, plus constructif aussi dans les discussions, dans les rapports qu'on a avec eux, etc. Mais moi, en fait, j'étais focus argent, quoi. Et c'était, en fait, c'est le signe le plus, comment dire, le plus direct de rémunération. C'est le truc qui me fait dire que je vais dans la bonne direction, entre guillemets, quoi.
Ouais.
Et là, récemment, je me suis dit, mais c'est pas ce qui me rend heureux, quoi. C'est pas ce qui me rend heureux parce que ça me génère un stress immense.
Mais c'est sûr que c'est le truc qui est le plus mis en avant. Et moi, je pense que si je suis passé par des moments où je voulais, j'avais des objectifs de croissance en termes de chiffre d'affaires, c'était en me comparant aux autres. Alors, ouais. Pas forcément, mais même pas dans mon cercle, parce que moi, dans mon cercle d'amis, j'ai pas forcément des gens qui gagnent énormément d'argent.
Pardon.
Non, oui, pardon, par toi, Florian. Mais, genre, par exemple, dans ma famille, il y a aucun entrepreneur. J'ai que des gens qui sont salariés, qui ont des salaires, des salaires corrects. Mais voilà. Par exemple, j'ai aucun ami, aucune famille riche autour de moi. Et c'était juste, je sais pas, la pub, les réseaux sociaux et tout. Parce que c'est le truc que tu mets en avant. Et il y a un espèce de truc où... maintenant, du coup, j'en suis persuadé. Mais c'est juste qu'une fois que tu gagnes beaucoup d'argent, en fait, à part t'acheter des trucs qui vaut cher pour montrer aux autres que tu gagnes bien ta vie...
Exactement.
Ça t'apporte pas grand chose d'autre, donc c'est un cercle de merde où tu vois des gens faire ça, du coup toi après tu travailles beaucoup, tu t'achètes aussi des trucs qui coûtent cher et du coup tu vas donner envie à des gens de faire la même chose que toi. Et donc du coup c'est vrai que j'essaye d'être un peu sans me donner plus de pouvoir que ça, hein, mais d'être le changement que j'aimerais voir. Et en gros, moi je mets en avant, moi à chaque fois qu'on me parle, je mets jamais en avant le côté argent. Moi je dis, moi ce qui est le plus important dans ma vie, c'est mon temps libre en fait. Et je trouve ça, je pense que c'est plus inspirant et j'aurais bien aimé moi avoir ce genre de témoignage avant, d'avoir comme objectif d'avoir du temps libre à passer avec les gens que t'aimes, avec ta famille, plutôt que de juste penser à l'argent. Je trouve ça tellement, encore une fois, à partir d'une certaine somme, hein. Mais je trouve ça tellement dommage de se concentrer là-dessus. Il y a tellement de trucs plus importants que... Voilà. Donc j'essaie de véhiculer ça en tout cas maintenant.
Et moi, j'ai fait une expérience un peu bizarre la dernière fois tout seul. J'étais nu et... C'est qui déjeuner. Non, je me suis demandé qu'est-ce que je ferais si j'avais argent illimité. Et je me suis retrouvé incapable de répondre à la question. Et je me suis dit, mais à quel point, en fait, du coup, ce n'est même pas de la sécurité ou quoi que je m'achète. C'est plutôt une espèce de... un peu de folie, d'illusion de courir après un objectif qui n'en est même pas un, parce que si j'avais illimité, je saurais même pas quoi en foutre, quoi.
Ouais.
Et je me suis dit, tant que je sais pas répondre à cette question, j'ai un problème. C'est pas normal, quoi.
Ah, bah, non, mais je pense, enfin, là, c'est ton jugement.
J'ai un problème.
De mon point de vue, je trouve pas du tout que ce soit un problème. Mais ce que ça montre, c'est qu'en fait, te dire ah, je vais gagner beaucoup d'argent et tout, c'est que en fait ton objectif il est pas très clair, quoi. C'est-à-dire que on a l'impression qu'une fois qu'on gagnera beaucoup d'argent, là ça y est, tous tes problèmes vont disparaître, mais pas que les problèmes financiers. Je sais pas, si t'as certaines choses sur tes pas sûrs, sur ce que t'avais envie de faire, sur ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, tout
exactement.
Ça, on a l'impression qu'avoir de l'argent, ça va résoudre tes problèmes, sauf qu'en fait avoir de l'argent ça veut rien dire du tout.
Mais c'est un épouvantail, c'est ça,
oui,
le truc.
Bah ouais, c'est ça. En fait, moi, de mon expérience, je suis passé par plusieurs salaires dans ma vie, en commençant très bas, j'ai gagné plus avant, enfin bon, bref, ça a pas mal changé, et à chaque fois que j'ai atteint un palier d'argent, j'en ai jamais profité. C'est-à-dire que dès que je l'atteignais, tout de suite, je me disais, bon, bah, allez, maintenant, c'est quoi le prochain objectif? Et du coup, c'est vraiment sans fin, quoi. Avant, j'arrivais vraiment pas à le comprendre et à l'accepter. Mais maintenant, je suis persuadé que les millionnaires, ils passent peut-être pas leur temps, mais ils regardent les milliardaires ou même les multimillionnaires en se disant, ah, putain, ça doit être stylé et tout. Et t'as beau avoir n'importe quel appart, n'importe quel parc immobilier, il y aura toujours quelqu'un qui aura plus que toi. Et t'auras toujours envie d'avoir toujours plus. Alors que le bonheur, par exemple, ou faire exactement ce que t'as envie de faire, ça c'est pas quelque chose qui peut se mesurer. Et du coup, c'est pour ça que c'est pas mis en avance, parce que c'est pas quantifiable. Tu peux pas te comparer. C'est pas comme montrer ta montre à quelqu'un en disant ma montre vaut tant, la mienne vaut moins. Tu peux pas dire à quelqu'un je suis plus heureux que toi. Et même c'est quelque chose que t'as pas envie de foutre dans la gueule des gens. Enfin, moi je suis très content de le partager, mais je vais jamais dire à quelqu'un je suis plus heureux que toi. Dis donc, c'est le contre-productif. C'est pas
mais
le principe.
C'est pour ça que ça vaut le coup de se poser la question. Et moi, quand je me suis dit pourquoi je veux de l'argent, moi j'aimerais être propriétaire parce que j'ai une angoisse. Mes parents sont pas propriétaires, j'ai été expulsé quand j'étais jeune et tout, donc j'ai vraiment des angoisses de sécurité. Et c'était mon objectif. C'est genre, je vais être propriétaire. Donc du coup, j'ai fait des choix professionnels qui m'ont rendu malheureux, qui m'ont fait faire un burn-out, qui m'ont fait vraiment. Et en fait, j'étais jamais heureux. L'année dernière, j'ai quitté le salariat en me disant, mais en fait, je veux être indépendant, c'est ça qui vaut le coup. Et donc, il y a deux choses que je voudrais dire sur ça. C'est que déjà, moi, j'ai réduit mon salaire de 50%. Et donc, tu disais, Lucas, tout à l'heure, de grimper, tu vois, et c'est toujours une question de statut social. Quand tu divises ton salaire par deux, il y a un truc identitaire où je me suis dit, putain, je vaux deux fois moins, quoi. Et je me suis rendu compte que j'en faisais deux fois plus, du coup, pour compenser. Alors qu'en vrai, enfin, même mes semaines, elles sont ouf, alors que je gagne deux fois moins qu'avant. Du coup, il y a un drôle de truc de compensation. Je me dis, il faut pas que j'indexe ma valeur sur l'argent, sinon je suis flingué. C'est pas logique de faire ça. Et le deuxième truc que je voulais dire, ah oui, c'est que j'ai remarqué que, ok, je voulais être propriétaire, c'était une espèce de, ouais, l'épouvantail ou d'horizon que je me mettais, un espèce de prétexte. Et en fait, je me suis dit, ok, pose-toi 5 minutes, tu veux devenir propriétaire, pourquoi? Et j'ai réalisé, en fait, c'était pour ma sécurité. Je fais, ok, mais tu ferais quoi de plus si tu te sentais en sécurité? Et de se poser des questions là, de vraiment de faire des 5 pourquoi et d'arriver au cœur du truc. Si je veux faire de la sécurité pour faire ce que j'aime, et après de réaliser, mais je fais déjà ce que j'aime. Donc en gros, prends pas le truc à l'envers, t'es déjà au-delà de ce que tu voudrais faire si t'étais proprio. Donc ne renverse pas le truc, juste continue à kiffer et assure-toi ta sécurité pour vivre tous les jours. Donc il y a ça que je voulais dire. Et deuxième truc, c'est que Armène, t'as parlé de minimum, et je trouve ça intéressant, et je voulais vous poser la question. Toi, Lucas, est-ce que t'as déjà raisonné en minimum à gagner plutôt qu'en maximum? Parce que j'ai l'impression que c'est ça qui nous rend fous, c'est que le maximum n'a jamais de plafond, et du coup, on court toute notre vie, quoi.
Exactement, ouais. Ce que tu as dit, Armène, tout à l'heure, en parlant de temps, moi, c'est une notion que j'ai énormément aussi, c'est... je fonctionne pas à l'argent par mois, moi, c'est vraiment le taux horaire. Je me dis, combien de temps j'ai par semaine, combien de temps je travaille, et en fait, je suis rémunéré à combien au taux horaire, quoi. Et quand je réfléchis comme ça, ça me rassure, parce que je me dis, en fait, j'ai énormément de temps, et tous mes potes qui sont en train de trimer dans leur boîte à essayer de grimper en salaire, etc., ils galèrent beaucoup plus que moi, même si sur le papier je gagne moins qu'eux à la fin du mois, tu vois, et moi ça m'apaise énormément, etc. Et en fait, oui, ce qui me rassure aussi, c'est de penser au minimum, c'est combien je dois gagner d'argent par mois pour être tranquille. Et en fait, moi, par exemple, pour payer le prêt de mon appart, je me sécurise, je me dis, je vais le payer toujours à un an, donc je mets de l'argent de côté à un an pour être tranquille si jamais il se passe quelque chose. Mais même ça, en fait, ça me suffit pas parce que je me dis, ok, j'ai pas envie de taper dans cet argent-là, quoi, si jamais il se passe vraiment quelque chose. Et en fait, le minimum, je l'ai, tu vois. Je me dis, là, je peux être apaisé pendant un an complet. Et si jamais je dois manger des pâtes, je mangerai des pâtes. Mais même ça, en fait, ça me rassure pas au quotidien, quoi. Parce que, comme tu le dis, il n'y a pas de plafond pour la croissance. Ouais. Je peux toujours aller plus loin et je peux toujours me dire, mais je peux mieux faire et je peux peut-être accéder à des choses trop cool, alors que finalement, j'en ai pas forcément besoin, quoi.
C'est marrant, du coup, t'as créé ta sécurité, mais tu veux pas aller plus dans ta sécurité au cas où tu serais en insécurité.
Exactement.
T'as la boucle.
Ah, c'est une boucle infernale, parce que, enfin, tu... C'est comme quand, en gros, tu mets vraiment de l'argent de côté. Tu sais même pas pourquoi tu mets de l'argent de côté, mais tu le mets, tu vois.
Ouais.
Et quand tu puisses dedans, tu te dis, ok, là, je suis en train de revenir en arrière.
Ouais.
Alors que quand t'as mis de l'argent de côté, tu t'es jamais dit, je vais jamais puiser dedans, tu vois. Et quand tu puisses dedans, tu dis, ok, là, je fais un retour en arrière, je suis une merde. Tu vois?
C'est trop bizarre. Et récemment, moi, j'ai dû me payer j'ai voulu me payer un truc qui était pas utile, entre guillemets. Et j'ai appelé tout le monde dans mon entourage pour dire, mais en fait, j'ai envie de me payer ça. Mais en fait, j'en ai pas besoin maintenant, je pourrais le faire l'année prochaine. C'est une formation, donc c'est quand même important pour mon métier. Puis je dis, ouais, mais je pourrais le faire l'année prochaine et tout. Et Armen et Alba, entre autres, m'ont dit, mais en fait, t'as de l'argent de côté, non? Tu peux le payer, le truc. Je fais, ouais. Il fait, mais du coup, pourquoi t'as mis de l'argent de côté? Je fais, bah, pour payer des trucs. Ben là, c'est un truc à payer, donc pourquoi tu le payes pas? Je dis, ah, malin. J'avais oublié pourquoi j'avais mis de l'argent de côté. Et en fait, le fait de le dépenser, il y a eu un truc de me faire plaisir et aussi de construire quelque chose, parce que je sens que ça va être quelque chose d'important. Je me suis dit, mais en fait, l'argent, ça devrait servir à ça plutôt que de colmater une peur non encore advenue. C'est trop bizarre comme fonctionnement, en fait. Donc voilà, je me suis payé ce truc-là. Et il y a eu un effet libérateur aussi de laisser partir quelque chose. Et donc je voulais un peu arriver sur la masculinité. Je me demande si en tant que gars, on n'est pas habitué aussi. Je pense que c'est le système capitaliste aussi qui fait ça. Mais si on n'est pas habitué à ne rien lâcher, quoi. On est habitué à accumuler plus qu'à donner. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez déjà réfléchi à la question d'un point de vue de la masculinité.
Juste, qu'est-ce que tu entends par donner, du coup?
Bah de lâcher de l'argent, quoi.
Ah oui,
tu vois, un truc qui te... Et de, tu vois, Lucas, tu disais, j'ai l'impression d'être une merde, de revenir en arrière. T'as l'impression que si t'es un mec, si tu mets de l'argent quelque part, c'est pour que ça te revienne, quoi. Mmh. C'est qu'il faut qu'il y en ait plus après.
Oui, il y a le côté investissement et tout.
Bah, c'est un peu l'image que j'ai. Moi, si je vois l'image d'un gars qui a mis de l'argent quelque part, si c'est juste pour se faire kiffer, je me dis, bolos. Enfin, moi, c'est mes filtres où je me fais pas plaisir. Je sais pas vous quel lien vous faites entre masculinité et argent, du coup, si vous avez...
Bon, il y a ce côté, j'ai un entourage, moi, qui est il y a une partie de mon entourage, on va dire, qui a une réflexion assez capitaliste autour de ce truc là où eux font que des placements, tu vois, sur du très long terme. Ils me disent, enfin, on me conseille souvent de me sécuriser avec des assurances vie, tu vois, pour avoir un plancher, tu vois, où je me dis, bah ok, là c'est sécurisé. Ensuite, tu fais un peu plus d'investissement risqué parce que t'as de l'argent de côté, donc tu peux investir un peu risqué, tu vois. Et moi, je suis là, je leur dis, bah ouais, complètement, tu vois, je comprends ce que tu dis, et en même temps, ça fait sens parce que j'ai envie de me sécuriser sur le long terme. Et d'un autre côté, j'ai mes autres potes, mon entourage très proche, qui me dit, mais je comprends pas, ton argent que t'accumules, tu le fais pourquoi? Pour kiffer plus tard, mais quand tu pourras plus kiffer, en fait, parce que t'auras plus l'énergie pour kiffer. Donc fais des voyages maintenant, fais des trucs qui te font plaisir maintenant, et ça sert à ça, en fait, l'argent que tu accumules, tu vois. Donc c'est un peu je suis un peu entre les deux, tu vois, et en fait maintenant j'essaie de beaucoup plus lâcher prise et me dire, mais finalement ça sert à quoi d'accumuler pour m'acheter une maison plus tard quand je serai hyper vieux et me dire que j'ai réussi ma vie? En fait, je me fais chier toute ma jeunesse pour... parce qu'on est encore jeune quand même.
Oui, j'aimerais bien, sûr. Même si on a des gueules de bois carabinées.
Exactement. Et là, tu vois, là, je suis vraiment dans ce truc de lâcher prise où je me dis, bah, quand j'accumule de l'argent maintenant, qu'est-ce qui me ferait le plus plaisir? Bah, c'est soit faire plaisir à mon entourage ou alors découvrir des choses et surtout acheter du souvenir. C'est... L'achat de souvenirs, maintenant, c'est quelque chose sur lequel je capitalise parce que c'est ce qui me fait le plus de bien au quotidien, plutôt que de me dire, bah, je vais m'acheter une montre de collection, je la porte au poignet tous les jours. Si je me la fais voler, en fait, je vais me dire, ok, je me suis fait voler une montre qui vaut une blinde. Voilà, il se passe quoi derrière? Mais si je pars en voyage, en revanche, je vais me dire, mais ok, on a vécu telle ou telle chose avec telle ou telle personne, c'était incroyable, et je vais m'en souvenir toute ma vie. Et là, j'aurais investi dans un truc hyper intéressant, tu vois.
Ouais.
Bah, je me reconnais vachement dans le côté entre les deux, c'est-à-dire vouloir investir et vouloir dépenser. Et pour parler de masculinité, c'est vrai que c'est vachement mis en avant. Alors, on a tous le feed Instagram qu'on mérite. Et j'ai quitté d'ailleurs. Je vais plus sur Instagram. Bref. Mais c'est vrai que c'est très, très mis en avant le côté investissement et tout. Et t'as plein d'influenceurs en mode mâle alpha qui te parlent de comment placer leur argent. Il y a eu plein de scandales d'ailleurs, hein, sur tous les gens qui ont poussé à acheter soit du Bitcoin, soit des NFT au début, ou même d'autres placements en bourse. Il y avait des influenceurs il n'y a pas longtemps là, qui ont été épinglés. Ils donnaient des codes promo pour investir en bourse. Et en fait, eux, ils touchaient de l'argent, les influenceurs touchaient de l'argent sur les sommes que les gens perdaient, que leurs followers perdaient en misant, je sais pas, j'y connais rien en bourse, hein, mais en investissant, genre ils faisaient des placements, ils perdaient tout leur argent, et l'influenceur touchait une partie de cet argent. Enfin, c'est
tellement
c'est
cynique.
Fou. Ouais, non, c'est vraiment horrible.
C'est très malin, ouais. C'est très cynique, putain.
Et enfin voilà, il y a toujours des histoires de gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, alors souvent des hommes, ouais. Voilà, qui ont mis toutes leurs économies ou même qui ont emprunté de l'argent pour pouvoir investir et qui ont tout perdu derrière. Donc je pense que ouais, c'est encore une fois, c'est le côté image, quoi. Voilà, du mec sur son yacht qui a des placements à n'en plus finir. Il y a le truc de l'argent qui travaille pour soi, qui travaille pour toi aussi, que c'est pas toi qui travaille pour l'argent, enfin genre de truc. C'est vraiment un truc qu'on voit partout. Enfin, en tout cas, moi je sais pas, par exemple, c'est intéressant. Toi, t'as ce genre de truc un peu de temps en temps sur les feeds ou
non? Non, pas du tout. C'est fou, j'essaie vraiment de pas regarder ça. J'ai beaucoup de chatons, mais ils gagnent une blinde aussi.
Bah, non, mais moi, non, mais c'est fou parce que moi j'avais des chatons dans ma vraie vie, mais sur mon feed Instagram. Donc, n'empêche que ça veut dire que sur moi ça marchait et ça résonnait, même si j'ai jamais fait ce genre de truc.
Tu préférerais avoir 9 influenceurs bourse chez toi cet été que 9 chatons?
Oh non,
t'inverses le feed et ta vraie vie, tu sais. Mais non, mais sur la masculinité, c'est moi j'ai un souvenir d'il y a très longtemps, d'il y a 12 ans, je crois. J'avais eu un gros coup de chance, j'étais dans un super appart, bon, comme aujourd'hui, hein, la podcast money. Mais à l'époque, c'était vraiment pas du tout lié à mon niveau de vie. L'appart était très peu cher pour un très haut standing. Et j'avais invité des potes, dont une meuf que j'aimais bien. Quoi?
Non, j'ai hâte d'entendre la suite, c'est tout. Je me régale d'avance.
Et j'ai forcé mes potes à me regarder. Non, pardon, ça devenait très glauque.
Regardez-moi sur mon petit piédestal, là.
Bah, regardez, je vis bien. Non, mais du coup, et je faisais pas ça pour regarder où j'habite, tu vois. J'invite les gens et tout. Et à un moment, je sais plus pourquoi, je sors mon téléphone. Et j'avais pas d'argent à l'époque, vraiment pas du tout d'argent. Et j'avais un vieux téléphone éclaté. Et la meuf me dit, mais attends, tu vis dans un appart comme ça et t'as pas d'iPhone? Et je te jure que ma quête pendant le mois qui a suivi ou les mois qui ont suivi, c'est d'acheter un iPhone. Ouais,
c'était la Mila, la meuf.
Oui, ouais, c'était une influenceuse. Mais non, mais tu vois, ça m'a marqué de me dire, mais en fait, c'est vrai qu'il faut que j'ai des signes extérieurs de richesse pour pouvoir pécho, quoi.
Ouais, ouais,
Donc voilà, moi, c'est le lien que je fais, du coup, et même malgré moi, c'est ancré en moi. Si je peux pas offrir des trucs ou si je donne pas l'impression que je suis un budget limité, quoi, et ben je perds en masculinité. Et quand j'ai perdu en salaire l'année dernière, j'étais déjà en couple avec la fille avec qui je suis aujourd'hui, et j'ai vraiment eu l'impression qu'elle allait moins me respecter, alors qu'elle m'a donné aucun signe de ça, hein. Mais c'est dans ma tête, j'étais persuadé de ça, quoi.
Moi, j'ai jamais eu ça pour la drague. Je me suis jamais dit, genre, il me faut un signe extérieur de richesse pour draguer. Et moi, dans mon couple, ma femme gagne plus, donc voilà. Mais par contre, tu vois, toutes les dépenses on fait 50-50. Et donc, est-ce que c'est une sorte de fierté de ma part de dire, ok, je gagne moins, mais on fait quand même 50-50? Je sais pas, c'est une bonne question. Faut que je me pose la question.
En fait, c'est la question que j'allais vous poser, c'est sur le fait de gagner plus ou moins que sa compagne, tu vois. Est-ce qu'il y a... Toi, tu t'es déjà posé la question, Armen, de te dire, ok, là, je gagne moins qu'elle, ça me pose problème parce que j'arrive pas à la sécuriser?
Non, jamais, parce que, en fait, les tendances se sont inversées. C'est-à-dire que quand on s'est connus, ça fait très longtemps, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Bon, au début on était étudiants, mais après, donc très vite, moi je gagnais plus d'argent qu'elle pendant très longtemps. Et en fait, ça fait maintenant seulement genre 2 ans, un truc comme ça, qu'elle gagne plus que moi.
D'accord.
Et donc du coup, voilà, ça me pose vraiment aucun souci. Je me suis jamais posé la question. Ouais, non, ça me...
C'est vrai que j'en discute beaucoup avec des potes et il y a vraiment ce côté, ce désir de sécuriser un peu le foyer. Et de subvenir un peu aux besoins du foyer, tu vois, d'acheter une bagnole, de conduire la bagnole. Enfin, c'est vraiment le truc.
Mais ils ont des femmes ou des copines qui travaillent aussi ou...
Ouais, elles travaillent. D'accord. Elles travaillent et ils ont envie d'assurer, en fait, pour le foyer, quoi. Ah, et oui. En fait, c'est une sorte de... Ils se posent même pas la question.
Putain, c'est ouf.
Ils se posent même pas la question de se dire... peut-être qu'elle peut gagner plus que moi, peut-être qu'elle peut être plus indépendante que moi, tu vois.
Et concrètement, ils gagnent tous plus que leur copine, femme.
Quand j'en parle avec eux, ouais.
D'accord. Okay.
Quand j'en parle avec eux, oui. Et puis après, on n'a pas de débat parce que vraiment, ils sont pas du tout dans ces réflexions. C'est juste pour eux très logique de pouvoir subvenir aux besoins du foyer, mais ouais, c'est un peu une, ouais, c'est un cliché dans lequel ils ont plongé, quoi.
Putain, c'est horrible pour les deux, je trouve. Tant pour la femme que pour eux, du coup, parce que eux, ça leur met une pression de ouf.
Ça leur met une pression de ouf. Et pour la femme, c'est un manque de, bah, d'indépendance, finalement. Bah, parce ouais. que tu
ouais, puis ça crée une dette de ouf, tu vois. Ouais. De Parce que du coup, j'imagine que dans leur tête, ils se disent que si leur femme est en sécurité, c'est grâce à eux. Et donc, ça crée forcément un déséquilibre dans la relation. C'est sûr. Ouais.
Et ce qui montre que c'est devenu un devoir pour un gars aussi, tu vois, le fait que ces mecs-là soient un impensé, c'est-à-dire que ça, c'est même pas une question pour eux, c'est même pas ils se disent, ah, est-ce que, non, c'est juste, on doit gagner plus, et ça n'a jamais été un sujet dans leur tête. Ça veut dire que nous, on est de la même génération. Ça veut dire que ça, nous, on a peut-être pris une tangente par rapport à ça, mais on a été élevé avec ça. Et je me dis, enfin, moi, même si j'essaie de lutter contre ce cliché-là, je l'ai et je pense qu'il y aura toujours un résidu de ce cliché-là, avoir de gagner plus, quoi.
Je pense que ça dépend peut-être des milieux aussi. Tu vois, moi, je disais que je venais d'un milieu où il y avait très peu d'entrepreneurs, que c'était plus du salariat, tout ça. Toi, ces potes-là, c'est des gens qui sont salariés ou c'est plus des gens genre qui ont lancé des...
Les deux.
Il
y a aussi des entrepreneurs, ouais.
Okay,
il y a aussi des entrepreneurs qui ont lancé des trucs et c'est pour ça que ça me surprend, tu vois.
Bah ouais.
Parce que tu dois... Enfin, quand t'es entrepreneur, je pense que tu comprends aussi que ta femme potentiellement peut aussi avoir envie d'entreprendre et d'être hyper indépendante par rapport. Mais eux se posent pas la question. En fait, ils ont juste... Ils voient que leur réussite sociale et ils se disent qu'ils doivent assurer, tu vois, un peu pour tout le monde. Et ouais, ils se posent pas la question, quoi.
Et toi, du coup,
pardon. Ouais, c'est que j'ai, du coup, je rebondis juste parce que c'est une question du Patreon, donc je le note. Merci beaucoup d'avoir posé la question sur le Patreon qui était, si vous êtes en couple hétéro, qu'est-ce que vous pensez ou penseriez si votre compagne gagnait plus? Et toi, Lucas, est-ce que ça t'est arrivé ou voilà, qu'est-ce que t'en penses?
Moi, je serais hyper fier. Mais pendant un long moment, j'étais vraiment dans la case du cliché de si elle gagne plus que moi, c'est pas elle le problème, c'est moi, tu vois. Donc, je me remettais vachement en question en me disant, mais ok, donc là, elle va peut-être un peu plus vite que moi. Et ça me fout la pression parce que j'ai pas envie qu'elle ait envie de faire des choses que moi, je peux pas faire, simplement. Après, s'il n'y a pas énormément de différence de salaire, c'est pas très grave. Mais je sais pas, s'il y a, on va dire, 5000 balles de différence, je vais me dire, bon, ok, là, je vais me poser
faut
des
que
questions.
Tu bouges le cul, hein.
Et il faut que je me bouge le cul. Elle a envie de partir sur un yacht, je ne sais quoi faire. Bon, bref, je serais hyper gêné, quoi. Je serais hyper gêné. Mais là, je lâche prise beaucoup plus avec ça et ça me rendrait vraiment fier, tu vois, qu'elle gagne beaucoup plus de thunes.
Mais moi, j'ai ce truc-là, tu l'as dit, genre, j'aurais peur qu'elle veuille faire des trucs et que, en gros, moi, je la frustre parce que je peux pas. Moi, j'ai eu ce truc-là et du coup, j'en ai parlé avec elle parce que je pouvais pas. Il y a un moment, j'ai vécu un peu au-dessus de mes moyens, un peu comme toi, tu disais, Armin, enfin, tu vis pas au-dessus de tes moyens, mais t'as fait 50-50. Moi, j'ai fait ça au début et après, j'ai pas eu de rentrée d'argent pendant 6 mois et je me suis, enfin, 4 mois, et je me suis dit, je peux pas continuer à faire le fier parce qu'en vrai, il y a un moment où je vais plus du tout pouvoir rien payer et ça va être dangereux, même pour moi et puis pour elle. Du coup, on a convenu d'un truc, en gros, selon les mois, je paye à hauteur de ce que je gagne en différentiel. On fait vraiment des pourcentages, alors on fait pas un truc à la virgule près, et on continue quand même à se faire des cadeaux. Il y a des moments où moi je vais payer tout le truc parce que ça me fait plaisir, pas pour faire le fier, mais parce que ça me fait plaisir, parce que moi le truc qui me frustre le plus dans le fait d'avoir moins d'argent, c'est de pouvoir être moins généreux. C'est vraiment le truc qui me frustre le plus. Mais j'avais aussi peur qu'elle se dise, bon, il est nul, je peux pas vivre avec lui des trucs cool, tu vois, acheter des souvenirs ou des moments. Elle est vachement là-dedans, je dis, je veux surtout pas la frustrer de ça. Et du coup, ma question, c'est, est-ce que vous en avez parlé dans votre couple ouvertement, de l'argent, de qui gagne combien et quelles sont les règles en fait de votre couple?
Alors, pendant un long moment, j'ai gagné de l'argent pour nous deux parce que elle était en reconversion et tout, donc moi j'assurais, on va dire, le truc. Et là, c'est un peu l'inverse dans le sens où elle gagne quand même pas mal d'argent aujourd'hui. Ça se rééquilibre. En fait, on s'est jamais posé la question de je suis redevable ou autre, parce que je sais que si je suis dans la merde financièrement demain, je sais que je vais pouvoir compter sur elle comme elle a pu compter sur moi quand elle gagnait pas de sous, quoi. Si j'ai envie de devenir pizzaiolo dès demain, et je pense que c'est un truc que je vais faire bientôt.
Pizza de la mama.
Pizza de la mama. Je pense qu'elle me soutiendrait et il n'y aurait aucun problème. Donc non, c'est très sain chez nous en tout cas.
Donc vous en parlez ouvertement, j'imagine.
Ouais.
Okay.
Ouais, il y a aucun tabou sur l'argent. Et puis moi j'ai toujours fait ça avec à chaque fois que j'étais en couple, j'ai jamais séparé, on va dire, l'argent. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu payer pour, je sais pas, quand on va au resto, on paye tout en une fois, tu vois. Il n'y a jamais eu de séparation de toi, tu payes ta part ou autre. Même au début, en fait, de chaque relation, c'était toujours comme ça. Et puis, c'est chacun, soit chacun son tour ou quand quelqu'un a envie de payer, tu vois. Je me suis toujours détaché, on va dire, de l'importance qu'a l'argent de manière séparée dans le couple. Okay. J'ai pas envie que ça devienne un problème, en fait. Donc, pour moi, c'est le truc principal, c'est la communication, parce que si tu communiques pas, il peut y avoir des problèmes, mais... quand tu communiques bien en amont, etc., bah, très souvent tu désamorces pas mal de choses et en fait c'est fluide quoi. Mmh. C'est fluide.
Et toi, Armen ?
Ouais, bah pareil, il y a aucun tabou, aucun secret. Juste pour revenir sur les différences de salaire, moi-même je la pousse à gagner plus, c'est moi qui l'aide. Enfin, c'est moi, non, je l'aide pas, mais je la motive quand elle a des. Pour demander des augmentations et tout. Moi, elle m'écoute pas forcément. Mais parce que, en fait, bon, maintenant on est mariés et en gros, c'est notre argent, on n'a pas fait de contrat de mariage. Par exemple, pour acheter la maison, moi de mon côté j'avais un plus grand apport et c'est pas pour ça qu'on rembourse pas la même chose tous les mois, c'est-à-dire que je considère que maintenant c'est notre argent et voilà, et donc du coup bah, le plus d'argent elle gagne et bah tant mieux parce que ça sera aussi pour moi. Donc en fait nous ce qu'on fait comme système c'est qu'on a chacun nos comptes et on a un compte commun en fait sur lequel on verse chacun la même somme pour les dépenses globales. Et après, bah voilà, si elle a eu un bon mois ou quoi, enfin ou une prime ou quoi, bah voilà, elle va m'inviter, tout ça. Et comme moi, au début, quand elle avait pas d'argent, bah genre nos premières vacances, c'est moi qui avais payé. Enfin, ouais. Enfin, mais bon, le fait qu'on a une différence, mais qui est pas non plus monstrueuse. Donc tu vois, on n'a pas, comme tu disais, Florian, un truc où je peux pas suivre ou quoi. On est quand même globalement sur les mêmes. Sur les mêmes budgets et puis on gère notre argent très différemment, mais en termes de dépenses voilà, enfin on est tous les deux, on n'est pas du tout des flambeurs et c'est pas parce qu'elle se met à gagner plus d'argent que d'un coup elle va me dire allez on part en vacances à l'autre bout du monde, on va dans des restos de ouf, on va claquer plein de thunes et tout, elle est pas comme ça, donc du coup ça se passe vraiment de manière ouverte, transparente.
Sur le compte commun, du coup, il y a eu un choc la dernière fois dans votre couple quand j'ai annoncé que je payais Netflix et que oui, ta compagne a découvert que je virais l'argent directement à Armen.
Oui, sur mon compte perso.
Alors que ouais. Oui, parce que du coup, c'est Armen qui me paye Netflix parce que je suis dans le besoin. et du coup, voilà, c'est en fait Armen se fait. Tu vois, t'es un influenceur bourse auto aussi.
C'est vrai que je me fais 5 euros tous les 3 mois.
Tous les 3 mois de manière aléatoire. et du coup, c'est intéressant parce que Lucas, t'as eu ce truc du provider de ramener l'argent pour deux quand elle était en reconversion. Et moi, là, du coup, ma copine, elle ramène pas l'argent pour deux, mais c'est vrai que c'est un peu elle qui, c'est grâce à elle qu'on se fait beaucoup plus plaisir en ce moment parce qu'elle gagne plus. J'ai appris, c'est marrant, mais j'ai appris grâce à elle, hein, vraiment grâce à sa générosité qui est naturelle pour elle, à accepter le don aussi, à accepter de recevoir, ce qui fait que j'ai beaucoup plus hâte maintenant de pouvoir donner. Et c'est pas pour la rembourser, on a vraiment, c'est genre tu me dois rien ou quoi, mais j'ai hâte de donner. Donc juste je voulais faire ce lien-là, qu'apprendre à recevoir, c'est aussi apprendre à donner. C'est un truc que j'ai appris cette année. Ça a l'air bateau et développement personnel, mais c'est vraiment un truc que j'ai appris. Et du coup, toi, quand t'étais dans ce rôle-là de provider, ça te mettait pas une pression supplémentaire?
Si, complètement. Complètement parce que je voulais qu'elle ait assez de liberté pour ne rien penser à... Enfin, tu vois, je voulais que son esprit soit totalement libéré d'un point de vue argent et qu'elle se concentre sur son activité, qu'elle fasse vraiment ce qu'elle veut. Donc ouais, ça me mettait une pression supplémentaire parce que je voulais pas qu'on ait un train de vie moins fun qu'avant, quoi. Et je voulais qu'on voyage autant, je voulais qu'on fasse autant de choses. Donc ouais, grosse pression et en fait bah c'est elle à chaque fois qui me disait mais arrête de te foutre autant la pression, on manquera jamais d'argent, on a un an de liberté
seulement un an.
Et ouais, du coup c'est de la pression et c'est encore une fois c'est social, tu vois, c'est vraiment que social. Je me disais mais ouais, bah j'ai des potes qui sécurise à mort, moi il faut que je le fasse aussi, tu vois.
C'est parce que tu voyais tes potes le faire que tu me disais faut que je le fasse.
Je pense.
Ouais.
Je pense, tu vois, et je pense qu'aussi je me dis elle l'aurait fait pour moi, donc il faut que j'assure. Mm. Tu vois. Il y a aussi ce truc là de contrepartie, de je suis sûr qu'elle l'aurait fait. Donc
Et il y a ce truc du coup ta copine elle gérait pour toi l'aspect commercial ou marketing, c'est ouais. Ça. Donc qui est quand même lié à l'argent dans ton business.
Complètement, ouais.
Et comment ça s'est passé, du coup, ce truc-là, de dire que c'est ta meuf qui gère l'aspect... Alors, tu gères aussi du commercial, évidemment. Mais de ce que tu racontais au dernier épisode, elle est beaucoup plus détente avec l'aspect commercial. Elle s'en fout un peu, quoi.
Ouais.
Donc, je sais pas comment ça se passe. Du coup, moi, je sais pas quel rapport j'aurais avec une femme qui gère mon business plus à l'aise que moi. Je me dirais, putain, je dirais pas c'est genré, mais je me dirais la chance. C'est trop de la chance d'être détendu avec ça, quoi.
Ah, ben, complètement. Complètement. Et c'est... moi, j'apprends beaucoup de ça, tu vois. Rien que d'être beaucoup plus détendu. Enfin, je pense que comme elle c'est pas son milieu et qu'elle elle s'en fout en fait d'avoir une bonne relation avec la personne en face, elle est archi détente.
Ouais.
Moi, je j'arrive pas à faire ça. Tu vois, je mets trop d'émotions dans le truc. Je suis trop là à me dire ouais, je me sens un peu redevable. Peut-être je vais baisser mon prix, tu vois, genre de truc. Et elle me dit mais t'es complètement con en fait. T'es qu'un gros connard.
Elle m'attache radiateur.
Voilà, les vacances, tu crois que tu l'avais payé avec des chaussures? Sale con, va.
Ça va ton couple, ça va?
Bof, en ce moment, je t'avoue.
C'est le crachat dans les cheveux, c'est ça?
Ouais, c'est ça, j'arrive pas à l'enlever.
On arrive à tout prix.
Et du coup, bah, non, mais ça m'éduque aussi à lâcher prise, tu vois, à me dire que bon, bah, il faut aussi que je me fasse un peu respecter.
Par ma femme.
Et par ma femme, surtout. et ouais, ça, moi, ça me prend beaucoup de choses.
Armin, t'as parlé de la propriété et Lucas, tout à l'heure, tu parlais de grosses bagnoles et tout.
Ouais.
Quel lien vous faites entre être un homme et posséder ? C'est une question qui me venait là, mais je me dis, est-ce qu'on ne veut pas autant d'argent pour posséder plein de trucs ? Alors, il y a la statut social dont tu parlais.
Moi, je pense que oui. Moi, juste, ça n'a rien à voir. Non, c'est ça à voir. Mais en gros, moi, mon garde-fou par rapport aux dépenses, c'est mes valeurs écologiques. C'est-à-dire que si je n'avais aucune valeur écologique, je pense que je voudrais gagner plus d'argent, que je roulerais dans une grosse bagnole, que j'aurais une grosse montre, que, enfin, je consommerais beaucoup plus. Vraiment, clairement, c'est ça qui me bloque. Et je suis très content d'avoir ces valeurs écologiques parce que, enfin, parce que je me regarde de mon point de vue de maintenant, je me dis sinon je serais vraiment un gros con. Mais voilà, n'empêche que s'il n'y avait pas ça, je pense que je tomberais là-dedans.
Tu penses que ça serait être un gros con par rapport à quoi?
Par rapport à mes valeurs actuelles écologiques.
Ok.
Ouais. C'est-à-dire que moi, je juge les gens qui ont des gros 4x4 ou même qui vivent à deux dans une maison de 400 mètres carrés. Je me dis bah non, ça n'a pas de sens quoi. Et il y a encore un an ou deux même, je me disais bon bah là on achète cette maison, mais j'aimerais bien après, ça me faisait rêver, je me dis tiens, j'aimerais bien un jour avoir 1 million d'euros à mettre dans une maison par exemple. Et aujourd'hui je me dis oui mais enfin ça sert à quoi d'avoir une maison de 200 mètres carrés? Même là on a 100 mètres carrés et je me dis mais en fait enfin déjà c'est trop grand, c'est pas, enfin d'un point de vue écologique c'est pas responsable. Et donc qu'est-ce que je vais me faire chier à acheter une maison deux fois plus grande ou même un jardin deux fois plus grand, enfin genre de truc. Et c'est comme ça pour tout. Par exemple par rapport à l'électronique, moi je suis passionné de hi-fi, de vidéoprojection, enfin ça. Et ce qui m'empêche, ou même par exemple de téléphone, s'il y avait aucun impact écologique, chaque année j'achèterais le nouvel iPhone. Et
mais tu draguerais, hein, je te le dis.
Je draguerais, bah oui, voilà. C'est sûr, avec des iPhones. Je les garderais tous.
Bien les iPhones,
même les anciens modèles, je les garderais tous sur moi.
Tu ouvres ton manteau, t'as tous les iPhones.
Tu cherches lequel?
Donc, mais du coup, ouais, moi je suis très attiré par la possession et par le fait de montrer. Par exemple, moi, chaque année, enfin, quasiment tout le temps, j'alterne une semaine sur deux. Je dis, ouais, putain, allez, là, je m'achèterais bien une belle montre ou un truc comme ça. Et la semaine après, je me dis, mais non, tu vas pas foutre autant d'argent pour un truc que tu vas pouvoir rayer d'un coup ou perdre ou te faire voler ou quoi. Et je céderais facilement au truc, genre, je sais pas, par exemple, au greenwashing. Genre, par exemple, si je suis honnête avec moi-même, j'adorerais avoir une Tesla. Mais je sais que ça reste aussi une aberration écologique et que c'est juste un argument de truc en plus. Mais encore une fois, voilà, si j'avais pas l'écologie avec moi, je dis pas que j'ai les moyens pour l'instant d'en acheter une, mais en tout cas, ça serait un objectif de me dire, eh ben allez, je vais gagner plus d'argent pour pouvoir m'acheter une Tesla.
Alors, j'ai une question et une remarque. Et une anecdote.
Merde.
Ah, c'est vraiment...
Est-ce que tu le sais? Voilà.
Non, la question c'est, pourquoi, qu'est-ce qui te motiverait à avoir une Tesla? Ça m'intrigue par exemple.
Je sais pas, dès que je vois un mec en Tesla, je me dis putain, il
est. Un mec, c'est jamais une meuf.
C'est vrai. Bah, non, mais franchement, c'est sûr que c'est lié à la masculinité, hein, il n'y a aucun doute. Mais je me dis, putain, ce mec, il a réussi sa vie.
Ah ouais.
Tu vois. C'est fou, hein. Et en le disant, je me rends compte à quel point c'est une connerie et à quel point j'ai fait des choix qui m'amènent à ne pas en avoir. C'est-à-dire que j'aurais très bien pu acheter une maison plus petite ou même ne pas acheter ou quoi et m'acheter une Tesla. Et je ne l'ai pas fait. Et je me dis, mais en fait, ça se trouve, le mec que je vois en me disant, putain, trop stylé, il a Tesla et tout, le mec, il, c'est sa maison, c'est sa voiture, tu vois, peut-être.
Ouais.
Et alors, juste pour contrebalancer ça, moi, quand je viens chez toi et que t'es avec ta femme, je me dis, ce mec a réussi sa vie.
Ah bah, écoute,
mais non, mais parce qu'en fait, la relation que t'as avec elle, c'est une relation que je trouvais hyper saine, la manière dont tu mènes ta vie et tout ça, hors l'argent, en fait. Le rapport que t'as aux choses est plus sain que si tu gagnais une blinde pour exposer. Donc voilà, ouais, moi, c'est, tu vois, comme quoi,
ça me touche, ça me touche.
Mais c'est vraiment vrai.
Hein. Oui, non, mais j'ai le recul, je me dis, je pourrais facilement penser ça. Mm. Mais je suis très heureux et je me dis pas, putain, il faudrait que je m'achète une Tesla. Justement, je me le dis pas. Mais n'empêche que si j'avais pas cette barrière écologique, et ben, je pense que ma vie serait différente.
Et dans le fait de montrer, ça, je rebondissais aussi là-dessus, je me suis formé, moi, en développement personnel, et dans une formation, il y avait un autre type qui suivait une autre formation ailleurs, je citerai pas, mais c'est très, pour le coup, moi, je trouve très masculiniste, de genre, prenez ce que vous avez à prendre, faites toujours plus, tu vois, vraiment, c'est l'action qui fait que, ce que je trouve vraiment des résidus du patriarcat appliqués au développement personnel, je trouve ça hyper dangereux. Bref, donc, dans cette autre formation, il était brainwashed à ça, et dans la formation à laquelle je suivais, je le voyais évoluer à chaque fois qu'il revenait. On lui avait dit, ouais, il faut fake it, to make it, faut que tu investisses en toi-même, c'est comme ça que tu vas marcher. Et il revenait à chaque fois avec le nouvel ordinateur Macintosh, vous connaissez.
Macintosh.
Il revenait avec un portable à 1200 balles d'un iPhone qui plaît aux filles. Mm. Et en fait, le mec, il faisait du traitement de texte, il suivait ses formations avec du traitement de texte. Je dis, pourquoi t'as un Mac à 2000 balles, tu fais même pas du montage, même. Et c'était vraiment, j'avais dit, mais pourquoi t'as ça? Il a dit, mais parce que comme ça, en fait, j'ai tellement investi que maintenant, il faut que je gagne et tout. Je dis, oh, waouh, c'est... Et je trouve, pour moi, c'est très lié à la masculinité. Et je dis ça d'intuition, je sais pas, vraiment, j'ai rien qui appuie ça. Et j'avais trouvé ça dangereux. Et c'était dans le fait de montrer, en fait, aussi, tu vois, ton ordinateur, de le montrer en formation comme ça, alors qu'avant, il prenait des notes sur papier.
Ouais, c'est marrant. J'ai jamais eu ce truc de montrer. En revanche, j'ai toujours eu le truc de l'accomplissement.
C'est-à-dire?
En gros, ça a jamais été un. Par exemple, moi, j'ai. Bah, je me suis payé une belle montre, mais c'était parce que je me disais, bah, je peux me la payer. Et j'en ai toujours rêvé. Du coup, je vais me payer une belle montre que les gens vont pas forcément remarquer, tu vois. Mais moi, ça me fait plaisir à moi, tu vois. Et en fait, si je me dis, si je me paye, par exemple, une belle voiture, genre, moi, personnellement, je rêverais d'avoir une Porsche, mais une vieille Porsche, quoi. C'est pas pour la montrer, mais c'est plus pour me dire j'accède à un plaisir financier et je me fais plaisir à moi, tu vois. Donc c'est vraiment juste des paliers que je passe à chaque fois, mais pas forcément pour dire aux autres j'ai de la thune, quoi.
Il y aurait pas un truc statutaire dans le fait d'avoir une Porsche
Bah en fait c'est...
Parce que c'est quand même des signes extérieurs de richesse, la montre,
exactement.
La Porsche...
Exactement, et tu vois, ma montre, j'essaie de la cacher un maximum, je sors pas trop avec parce que j'ai peur qu'on me la pique, mais par contre ça me remplit de joie à chaque fois que je la regarde et je me dis ah c'est cool, j'en ai toujours rêvé et je suis trop content, tu vois. Mais ouais, c'est... Par exemple, quand je m'imagine dans une voiture, j'adore les voitures. J'adore les Tesla également. Et quand je m'imagine dans une voiture, je me vois pas dans la voiture de l'extérieur, tu sais, je me vois vraiment à l'intérieur en train de la conduire, tu vois. Et je me vois vraiment dans un truc confortable. Et je me vois pas en fait parader dans les rues avec la voiture, ça ne m'intéresse pas en fait, tu vois.
Et... Ouais, pardon, mais quand tu vois quelqu'un dans une voiture, dans une Porsche par exemple, tu te dis quoi?
Bah,
tu te dis les stylés ou tu t'imagines toi dedans?
Je m'imagine dedans.
Il monte dedans.
Et je monte dedans et je me dis, vous êtes qui, monsieur?
Non, parce qu'est-ce que vous faites? Moi, le fait d'acheter des choses, ouais. Du coup, que j'achète pas, mais ça serait pas pour les autres, en fait. Ça serait vraiment pour moi.
Genre, j'ai réussi.
Ouais, c'est ça. Oui, c'est pas pour montrer aux autres que j'ai réussi. Mais après, est-ce que c'est un truc que j'ai tellement intégré que j'en ai plus conscience? Je sais pas.
Ouais.
Mais en tout cas, voilà, c'est pas quelque chose de conscient de me dire, je vais acheter ces trucs-là pour montrer aux autres. Ça reste quand même pour moi. Mais n'empêche que, voilà, comme tu disais, ce sont des signes extérieurs de richesse.
Bien sûr. Bah oui. C'est très social.
Et toi, Florian, du coup,
Par rapport à la possession,
tu veux une Tesla?
Moi, je veux une Tesla.
Tu veux une Tesla ou une Porsche? Ou les deux?
Les deux. J'ai les deux garés chez moi.
Une torche.
Mais c'est marrant, mais moi, j'ai un rapport à la possession qui est très bizarre. Dans le sens où je suis minimaliste malgré moi et ça me prive en fait. J'ai vraiment eu l'habitude de... Mes parents ont un rapport à la possession qui est extrêmement bizarre. Pour l'anecdote, mes parents, ils avaient une télé qui n'affichait que le vert. Elle est cassée, elle affichait que le vert, donc ils voyaient tout en vert, Game of Thrones en vert, tout en vert. Et un jour, à Noël, j'achète avec mon frère une télé à mes parents, mais c'est pas ouf, comme tu vois, genre, c'était pas hyper cher. Et mes parents étaient là, oh non, c'est bon, on s'est habitué à la télé. Ils l'ont laissé dans le carton et pendant des semaines, ils ont continué à regarder leur vieille télé verte, dire non, mais on va la rapporter, non, vous avez fait des folies, c'est pas possible et tout. Et à un moment, j'ai dû les engueuler, de dire mais arrêtez, vous êtes fous, quoi, c'est quoi cette folie de accepter le confort, accepter la possession de quelque chose de nouveau, de. Et bref, donc moi j'ai été élevé là-dedans, ça m'a vraiment brainwashé et aujourd'hui, quand je gagnais plus, moi, mon plaisir, je dis pas ça parce que t'es là, Lucas, mais c'est de m'acheter des vêtements. J'ai vraiment des beaux vêtements d'une marque que j'aime bien. Et à chaque fois que je porte ces vêtements-là, les gens me disent, oh, la qualité, elle a l'air bien. Mmh. Ça se voit, en fait, que la fabrique est pas pareille, que la texture est pas pareille et tout. Et c'est un kiff de me mettre ce beau vêtement et je me sens beau, quoi. Il y a un truc de, aujourd'hui, je m'en prive, mais mon cerveau est passé en mode switch, t'as pas d'argent. Donc ne pense même pas aux vêtements. Et la dernière fois, je suis allé avec ma copine, du coup, dans un magasin de vêtements. Et j'ai craqué, quoi. Je me suis dit, putain, je vais acheter ça et tout. Et elle m'a dit, je t'avais jamais vu comme ça te faire plaisir et en fait, j'aimerais te voir plus te faire plaisir comme ça. Et je me dis, enfin voilà, mon cerveau, il a un rapport à la possession qui est on-off, quoi. Mmh. Et là, j'apprends à reposséder des trucs, à me refaire un peu plaisir et tout, parce que c'est dangereux, en fait, d'être soit dans un truc de moine, soit dans un truc de je pète un câble et j'achète tout et je fais pas gaffe, quoi. Mmh. Mais mon rapport à la possession, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que quand je vous ai posé la question, je réfléchissais, je me disais, mais en fait, j'ai l'impression, moi, que mon rapport à la possession, il est quasiment presque humain et c'est dangereux, du coup. C'est que j'ai un peu envie d'acheter ma meuf, par exemple. Quand je me dis, s'il faut que je gagne beaucoup parce que sinon j'ai peur qu'elle parte, je me dis, mais en fait, j'ai envie de la posséder dans une certaine mesure. Donc, il faut que je fasse gaffe aussi à ça. Il faut que j'assainisse mon rapport, de me dire, bah non, il faut que ça soit du don et pas de je vais gagner beaucoup, comme ça, je suis sûr qu'elle reste avec moi. Ça, c'est dangereux, quoi. Voilà. Et même rapport social, je me dis, moi, j'ai envie d'atteindre un tel niveau social, mais c'est plus en termes de métier. J'ai plus envie d'être, je fais ce métier-là, je suis visible sur les réseaux, mon truc, il marche bien. Et limite, si je gagnais pas, ça serait pas grave. Alors que c'est con, parce qu'en vrai, ça sert à quoi d'être vu et de rien gagner, de mettre personne en sécurité ou de pas se faire kiffer, quoi.
Ah, bien sûr.
Et tous les deux, vous avez parlé de jalousie et de comparaison. Est-ce que vous pensez que c'est en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est un trait de caractère masculin. J'entends pas des meufs dire « Ah, elle a plus que moi. Je sais pas, peut-être je me trompe. »
Sur l'argent, je l'ai jamais entendu chez la femme, en tout cas.
Chez la femme.
La femme.
On est d'accord, c'est pas un truc qu'on entend souvent.
Par exemple, sur les réseaux, mes potes femmes m'ont déjà parlé d'un truc un peu nocif sur la comparaison de, enfin tu vois, du corps, beaucoup de ça. Chez nous, c'est plus, j'ai l'impression, la réussite, tu vois, un truc un peu social lié à l'argent et tout.
Ouais, parce que j'ai l'impression que même les influenceurs fitness, souvent ils se mettent à parler d'argent.
Oui,
et
tout à fait, oui, t'as raison. Ouais.
Un truc de réussite, le corps c'est important, mais quand même l'argent ça l'est encore plus. Ouais, et c'est vrai que moi, pareil, autour de moi, j'ai aucun exemple féminin de jalousie, de réussite ou d'argent. C'est pas universel, mais en tout cas, ouais.
Ouais, non, mais du coup, je trouvais ça parce que c'est ce qui apparaît, on se compare beaucoup, nous, et j'ai l'impression qu'on se compare beaucoup entre mecs. Encore une fois, on est notre propre toxicité, quoi, parce que les meufs n'ont rien demandé là-dedans. Et nous, on est là à essayer de se comparer et de faire les fiers, alors qu'en fait, tout le monde s'en fout si on arrêtait 5 minutes, je pense que. Voilà, rigolo.
Et juste, c'est marrant, je réagère, tu parlais de tes parents, tu vois, et dans quelle mesure l'influence qu'on a eue justement de qu'ont eu nos parents, c'était un point.
C'est une question Patreon, merci Arsène. Alors, du coup, je vous lis la question et tu pourras poser si elle différait un peu. Mes petites notes. La question du Patreon, merci de l'avoir posée.
Merci Patreon.
J'ai un pote qui s'appelle Patreon en fait maintenant. Est-ce que on vous a inculqué pendant votre éducation la pression de ramener de l'argent à la maison? Et si oui, de qui ça venait? Vous avez 4 heures.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies.
Moi, j'ai pas eu cette pression-là.
C'est la question que t'allais poser juste au passage, Armène.
Ça allait être comment on est influencé par ce qu'on a vu à la maison, comment nos parents géraient l'argent et quel était leur rapport à l'argent.
D'accord,
et,
ok.
Est-ce qu'on reproduit un peu ce qu'on a vu chez nos parents, ou est-ce qu'au contraire on essaie de s'en détacher? Mais du coup, oui, la question-là est plus précise.
Ouais,
du coup.
Mixons ça, en gros. Est-ce que vous avez ressenti, vous, mixion? Putain, ça devrait pas me faire rire comme ça. donc la mixion, c'est de
l'urine.
De l'urine, voilà, pour les gens qui savent. Parce qu'en vrai, ça ressemble à un truc de mixologie, genre on a fait un cocktail. Non, mais c'est boîte à pisse, en fait. C'est juste boîte à pisse. Du coup, est-ce que vous avez ressenti la pression, vous, dans votre éducation? Et donc, moi qui fais de la sociologie, il y a deux cercles de socialisation. Le premier, les familles. Et le deuxième, il est plus dans ton entourage, tes amis et l'école et tout ça. Donc du coup, vous, est-ce que vous avez sorti une pression au fait de ramener de l'argent à la maison? Et si oui, où?
Moi, jamais.
Ah ouais.
C'est-à-dire que en fait, je suis très reconnaissant à mes parents pour ça. Je suis assez admiratif. C'est-à-dire que l'argent, ça n'a jamais été ni un sujet ni un problème. Ils avaient tous les deux des salaires, on va dire, classe moyenne basse, mais ils ont eu la très grande chance de pouvoir acheter leur maison à vraiment genre à 80% grâce à un héritage. Et en gros, on n'a jamais vécu dans l'opulence, mais on est toujours parti en vacances, tout ça. Et par exemple, en vacances, on n'allait pas au resto, on mangeait toujours des sandwichs, trucs comme ça, mais c'était jamais, genre, j'ai jamais entendu la phrase « non, on peut pas, on n'a pas les moyens » ou « non, ça coûte trop cher » ou quoi. C'était juste, c'était comme ça, en vacances, on mangeait des sandwichs. Et du coup, on a toujours pu faire tout ce qu'on voulait. On a fait des très beaux voyages. Alors voilà, on n'est pas allé aux Maldives, on n'est pas allé aux États-Unis ou quoi, mais jamais eu l'impression de manquer. Et en fait, j'ai su plus tard que, enfin maintenant, on en parle avec mes parents, qu'en fait, on a pu faire tout ça parce que mes parents mettaient beaucoup d'argent de côté, en fait. Mmh. Et c'est assez marrant parce que moi, j'ai toujours mis de l'argent de côté, mais avant de savoir que mes parents le faisaient. Et pendant des années, je me suis posé la question, mais en fait, comment ça se fait que moi, je suis comme un petit écureuil à toujours mettre de l'argent de côté? Enfin, vraiment, dès que je gagne de l'argent, maintenant c'est un peu différent, mais vraiment, dès que je gagnais de l'argent, hop, tout de suite, genre, ça transitait à peine sur mon compte et hop, ça partait direct dans mes économies. Et je me disais, mais pourtant, mes parents, ils sont pas comme ça et tout. Alors qu'en fait, si, ils ont été comme ça toute leur vie, et c'est grâce à ça qu'on a pu avoir le train de vie qu'on avait, qui, comparé à leur salaire, normalement, on n'aurait pas vraiment dû pouvoir faire ça avec l'argent qu'ils gagnaient. Voilà. Mais du coup, voilà, pas de pression aucune pression sur le fait d'en gagner, et même genre dans le choix de nos études ou quoi, ça n'a jamais été, hein, je dis nous, parce que mes frères et sœurs, l'argent, ça n'a jamais été une question. Voilà.
Okay.
Ni tabou, mais juste, c'était juste un truc normal, quoi.
Mais du coup, d'où, si c'est pas familial, t'as reçu la pression d'en gagner plus, tu vois, parce que t'étais dans un truc de croissance un peu illimité.
Et ben alors ça, je pense que c'est en opposition, justement, mais mes parents étaient un peu, à différents niveaux, mais comme les tiens, de en gros, tant que ça marche, faut pas changer. Enfin, là-dessus, je suis d'accord, mais sauf que là, même quand ça marche plus, apparemment, ils changeaient pas.
Ah ouais,
voilà.
Ils seraient restés devant un écran noir.
Et en gros, genre, par exemple, je sais pas, chez moi, c'est mes parents qui faisaient, c'est mon père surtout qui faisait genre tous les travaux, qui réparait tout, il construisait des meubles. Et il y avait beaucoup de trucs de débrouille de système, enfin pas de système D, ça, c'est parce que tout marchait bien et tout, mais n'empêche que il y avait pas de superflu, il y avait pas de luxe, il y avait pas de petits trucs, et du coup moi c'est vrai que ça leur pose pas de problème, mais ils aiment bien ça, ils hallucinent à quel point j'ai des goûts de luxe justement par rapport à eux. Alors aussi parce que je gagne plus d'argent que ce qu'ils gagnaient, mais aussi j'ai un rapport au à l'argent qui est très différent d'eux sur ce côté-là. Le côté matériel, justement, est vraiment à l'opposé d'eux. Donc je pense que ça s'est fait un peu en opposition.
Et t'as jamais eu l'impression de trahir l'esprit familial? Parce que je te pose la question, elle est orientée volontairement. Moi, quand j'ai commencé à gagner plus que mes parents, je me suis inquiété, tu vois, de me dire, est-ce que ça se fait, quoi?
Non, pas du tout, parce
c'est
que...
Cool, ouais. Ça veut dire qu'ils étaient tranquilles, tu vois, qu'ils t'ont inculqué aussi, en fait,
ouais.
Ce que tu veux.
Bah ouais, voilà, c'est ça. Non, et puis, enfin... Même si sur certains trucs on est en opposition, il y a plein de trucs sur lesquels on se rejoint complètement. Par exemple, là dans la maison qu'on a acheté, il y a plein de travaux que j'ai fait moi-même. Et un peu de la même manière que mon père a fait tous les trucs avec ses moyens, avec. Enfin voilà, genre lui par exemple, les finitions, il s'en fout. Donc il y a plein de trucs qui étaient. Pour lui, c'était pas important. Et moi, j'essaie d'aller un peu plus loin dans les finitions, mais n'empêche que la démarche de faire soi-même et tout, c'est quelque chose qui est très familial. De pas.
Massage avec finition.
De quoi? Massage finition manuel. Et donc ouais, sur certains trucs, enfin voilà, vu que je me suis pas complètement éloigné d'eux, du coup j'ai pas eu de trucs qui me disent maintenant je trahis mes valeurs familiales ou quoi. Ouais, ça s'est fait assez.
Tu peux les remercier parce que
ah bah carrément, ouais, non mais vraiment je les remercie vraiment là-dessus.
Et toi Lucas, du coup, est-ce qu'on t'a inculqué soit dans ton cercle familial, soit le cercle élargi, la pression de ramener de l'argent?
Non, alors ma mère a toujours été a toujours eu peur en fait du fait que je ramène ou pas de l'argent.
Oh, c'est ta mère?
Ouais, ma mère, elle a toujours flippé un peu, tu vois, c'est une maman poule, et comme j'étais un peu instable à l'école, je savais pas trop ce que je voulais faire, j'ai changé plein de fois de voix, etc. Et je pense qu'elle elle pariait pas sur moi, tu vois. Là où mon frère, lui, est parti faire ses études à Oxford et tout, elle s'est dit, lui, là, lui, c'est chaud.
C'est pas le bon cheval.
C'est pas du tout le bon cheval. Du coup, ouais, j'ai eu, moi, de la pression de ma mère parce que je voulais qu'elle me laisse tranquille, en fait.
Ouais.
Je voulais qu'elle me laisse tranquille et qu'elle soit rassurée. Donc, je commençais à faire des tafs qui me plaisaient pas de ouf. Mais, quand j'ai commencé à bosser dans le vêtement, elle s'est dit, OK, qu'est-ce qu'il part en couille pour de vrai? Il va jamais ramener d'argent, ce petit. Et j'ai eu ma mère qui a été souvent inquiète et j'ai dû la rassurer en lui disant combien je gagnais et tout, quoi. Mais enfin, elle m'a jamais frontalement demandé, mais je devais la rassurer en lui disant t'inquiète pas, je gagne bien ma vie, tout se passe bien, tu vois. Mais j'ai juste eu ce truc là et je pense que elle s'inquiétait juste pour moi, tu vois. Donc ouais, juste ça.
Pour rebondir sur, c'est marrant, la personne du coup là, sur le Patreon qui posait la question, elle faisait une supposition qu'on avait été inculqué de la pression de l'argent par notre père. Et du coup, toi Lucas c'est ta mère, toi Armel c'est personne. Et c'est élevé tout seul. Je m'appelle Armel. Et moi c'est ma mère aussi. Et donc du coup c'est marrant. Alors après, est-ce que c'est parce que c'est une inquiétude, je sais pas si c'est genré ou j'en sais rien. On peut pas généraliser de toute façon avec nous. Mais moi ma mère c'était ce truc de... c'était pas tant ramène de la thune, c'était le truc vraiment, moi j'ai été élevé dans un truc un peu schizophrène, genre sois heureux putain, sois heureux, mais te fais pas niquer quoi, donc gagne de l'argent. Et du coup j'ai jamais vraiment trouvé l'équilibre du coup, et c'était ce truc, moi j'ai fait comme toi Lucas, du coup, moi j'ai commencé ma carrière en faisant la musique où je gagnais pas d'argent, après je me suis dit au bout de 5 ans c'est chaud quand même en fait, je gagne vraiment rien, je gagnais 800 balles, hein, donc... c'est compliqué à vivre. J'ai repris des études, après j'ai eu un très bon poste et j'étais pas heureux et du coup j'ai quitté et j'ai gagné la moitié et aujourd'hui j'en suis là. Et aujourd'hui, moi ça m'a fait vriller. J'essaye de réconcilier cette opposition qui est fausse, qui est une croyance familiale de ma mère, quoi, que je peux pas me faire plaisir et gagner suffisamment pour m'être bien. C'est pas juste être en mode survie et avoir une télé qui fait que du vert. C'est genre avoir voilà un truc Technicolor et un écran géant si je veux, putain maman. Et du coup et moi ça me fait vriller la gueule en ce moment de me dire comment je fais ça parce que j'ai pas appris quoi. Donc et il y a aussi ce truc que ma mère m'a élevé dans la haine pas tant de l'argent mais des gens qui ont de l'argent. Et donc c'est pour ça que moi j'ai dit quand j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai dit mais est-ce que tu vas me détester? Et c'est marrant, mais j'ai vu aussi quand j'ai commencé à lui donner de l'argent, moi, parce que j'en avais plus, elle me le rendait d'une manière ou d'une autre. Et je me suis dit, en fait, elle veut pas gagner des sous. Moi, j'en veux. Et on va se mettre d'accord là-dessus et arrêter de faire semblant. Et je me suis un peu indépendantisé. Mais juste pour finir là-dessus, moi, c'est le truc qui me fait, tu disais, Lucas, en ce moment, t'as des hésitations. C'est un truc qui te prend la tête, l'argent et tout. De te rendre compte que c'est tout le temps un truc de croissance et que c'est contre-productif avec la créativité. Moi, en ce moment, j'ai vraiment, et je suis encore dedans, vécu une sale période de me dire, il faut que je ramène des sous, je vois pas comment pérenniser mon business. Et ça me rend fou, quoi. Ça me rend littéralement fou. J'en suis à un point où je suis très anxieux, j'ai des crises de panique et tout. Donc, il faut que je suis dans ce truc-là. Comment je réconcilie être moi, faire un truc qui me fait plaisir? Et parce qu'on sait les règles du jeu, que ça rapporte de l'argent, parce que sinon, en fait, j'ai tout perdu, ça marche pas, quoi. J'ai pas la réponse. Si vous voulez m'aider, du coup, écrivez-moi
sur... Il faut répondre en s'inscrivant sur le Patreon.
Instagram, ouais, sur le Patreon. Donnez-moi de l'argent sur le Patreon et faites-moi plaisir, s'il vous plaît. Ben, merci beaucoup d'avoir parlé de ce sujet avec moi. Avant de se quitter, si vous aviez un mot pour définir votre rapport à l'argent aujourd'hui, lequel serait-il ?
Alors moi j'y ai réfléchi.
Oh champion.
Ouais.
Parce que Lucas panique là.
Tu vois ma sueur là sur mon front.
Transpire, il a pas bu d'alcool.
J'ai été à ta place moult fois, je te comprends.
Moi j'ai jamais de mots, donc je suis trop content de pouvoir être l'animateur parce que je vous demande et après je suis genre merde.
Et ben moi je dirais utile, un mot assez froid et détaché en fait.
Comme
mon cœur. Non mais on entend très souvent le truc, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi et tout, ce qui est complètement vrai. Mais voilà, j'ai décidé de pas trop lui accorder d'importance. Donc voilà, utile.
Muy bien.
Et toi, Florian?
Putain, et toi, Lucas?
C'est bon, j'en ai un.
Oh putain.
Moi, j'aurais dit problème.
Oh.
Problème parce que, en fait, c'est bloquant, quoi. Encore une fois, l'argent. Je trouve que c'est bloquant pour la créativité. Et tu disais tout à l'heure, si t'avais de l'argent à l'infini, qu'est-ce que tu ferais? Et très souvent, je me pose la question et je me dis, je lâcherais beaucoup plus prise si j'avais de l'argent à l'infini. Et c'est pour cette raison-là que je trouve que la thune, c'est un problème.
Mmh. Ça, c'est intéressant. Alors, je vais donner mon mot. Moi, c'est anxiété. Mmh. On est bien, ça va. parce que c'est la période où j'en suis en ce moment et j'aimerais beaucoup que ça soit abondance, le mot. Mais c'est marrant, c'est l'abondance en argent, évidemment. Je vais pas faire genre l'argent fait pas le bonheur. Mais c'est aussi abondance de moi me sentir en abondance. C'est vraiment un état d'esprit. Donc là, j'ai l'impression d'être un motivational coach, mais j'ai vraiment envie de sentir que je peux être dans l'abondance, que c'est qu'une question de point de vue, en fait, arrêter d'être tout le temps dans cette question de manque, et j'y suis pas, c'est toujours lié au manque pour moi en ce moment. Mais tiens, du coup, alors, on va un peu dériver de la question habituelle de fin, et la question que j'aimerais vous poser là, c'est celle que tu soulèves, Lucas. Si vous aviez argent illimité, qu'est-ce qui changerait dans votre vie? Et je peux, du coup, y répondre à haute voix parce que j'ai pas préparé. Je peux y réfléchir. Moi, c'est marrant. Je crois honnêtement que si j'avais argent illimité, je ferais exactement ce que je fais aujourd'hui, mais avec énormément de tranquillité et d'arrêter de tout le temps planifier. Je suis tout le temps en train de planifier de qu'est-ce qui va être malin de faire dans 3 mois, comment je vais faire dans 1 an. Là, je suis en train de flipper parce que dans 1 an, je vais avoir une baisse de revenus. C'est réel. Et je commence à paniquer maintenant, un peu comme toi avec tes 1 an de réserve. Et je me dis, bah, je ferai la même chose, mais avec beaucoup de détente. Et je pense que je serai beaucoup plus généreux, ce que je fais pas par moment, parce que je me dis, ouais, mais cet argent, si je le perds, entre guillemets, je vais être malheureux après ou je vais y avoir des problèmes. Je ferais la même chose, mais avec beaucoup plus de détente et de générosité.
Moi, je me masturberais un peu plus.
Avec des billets.
Avec des billets. Non, je serais beaucoup plus... je serais beaucoup moins auto-centré sur le... Enfin, comment dire je serais ouais, beaucoup plus tourné vers l'autre et je serais... je lâcherais prise, en fait. Je contrôlerais beaucoup moins ce que je dis et ce que je fais au quotidien. En tout cas, dans la création de contenu, tu vois, je serais beaucoup plus libre et je pense que ça marcherait beaucoup mieux. Mmh. Vraiment, je suis persuadé de ce truc-là, quoi.
Ouais. Et toi, Armin, si t'avais argent limité?
Bah, alors déjà, je vais être chiant déjà parce que je veux dire que moi,
parce
j'aimerais
que j'ai
pas...
argent limité.
Non, déjà, j'aimerais pas avoir argent illimité.
Ah ouais?
Non. C'est quelque chose que je pensais avant et j'en ai beaucoup parlé avec ma femme. Et au début, j'étais pas d'accord avec elle. Elle me disait, ah non, mais... après, tu perds pied avec la réalité et tout. Et en fait, j'en suis plus persuadé maintenant qu'elle a raison. Mmh. C'est-à-dire que je pense qu'on a besoin d'avoir des trucs qu'on peut pas faire pour des raisons d'argent. Et je pense que si t'as argent limité, à mon avis, tu dois devenir blasé très vite. Enfin, je suis persuadé que c'est à cause de gens qui ont argent illimité que tu peux manger des steaks d'animaux en voie de disparition ou je sais pas, tuer des gens dans des pays. Enfin, je pense que si t'as argent illimité, il y a un truc un peu de... Du coup, tu peux faire tout ce que tu veux, mais pour moi, en tout cas, je pense que la vie perdrait de sa saveur. Si je me disais d'un coup, je cogite déjà tellement à me demander qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais pas faire. Si j'ai aucune limite d'argent, je pense que je passerai ma vie à me demander ce que je vais faire plutôt que de faire vraiment des trucs. Donc, premier élément de réponse. Et
déjà,
ensuite,
c'est pas chiant du tout, merci, parce que j'avais jamais vu ça comme ça. Donc, merci.
Bah, écoute, et ensuite, si j'avais vraiment argent illimité, dans l'idéal, j'aimerais me dire que je mènerais la même vie. Avec moins la pression de l'argent, mais comme je l'ai dit avant, j'y crois pas. Je pense que je serais malheureux.
Ok, bah, trop bien. Je trouve ça trop bien comme réponse. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu et d'avoir parlé de ce sujet.
Merci à toi pour ton invitation. Délicieux moment.
Les applaudisseurs, je vous applaudis avec le cœur. C'est ça. En fait, on a l'impression que j'ai une très bonne diction, mais je me rappelle plus ce que je voulais que je dise. C'est dans le nom, pourtant. Je vous applaudis avec le cœur et je vous fais des bisous.
Oh bah merci d'avoir écouté l'épisode.
Je sais pas, je suis désolé, je sais pas pourquoi j'ai pressé de voix. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez soutenir Mise à Mal, je vous invite à mettre une note et un commentaire sur votre appli de podcast préféré. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Patreon. Je sais que je l'ai déjà dit, mais il paraît qu'il faut répéter beaucoup les choses. Donc le lien est en description. Et maintenant je vous laisse avec un petit extrait d'un passage que j'ai coupé de l'épisode global parce qu'il ralentissait un peu le rythme, mais qui est super intéressant sur la négociation. Si vous voulez l'écouter en entier, eh bien vous savez où me rejoindre. Patreon. Les liens sont en description. Et Armen, t'as parlé de négociation tout à l'heure, que tu coachais ta femme à négocier. Mmh. C'est un truc dont je voulais vous parler. Vous, c'est quoi votre rapport avec la négociation? Et Armen, pour ouvrir le bal, quoi.
Moi, j'ai aucun mal à négocier.
Mise à mal.
C'est marrant. C'est le fait d'avoir changé de métier. C'est-à-dire qu'avant, quand j'étais musicien, donc, j'étais pas bon du tout en négociation. Enfin, il y avait un truc un peu genre l'argent. On est là pour l'art, tu vois. Oui. Et maintenant, en fait, c'est très simple, c'est que je négocie pas. C'est-à-dire que j'ai mes tarifs. Non, mais c'est vrai. En fait, j'ai décidé d'un tarif qui me convient, enfin voilà, avec lequel je suis à l'aise, que j'assume complètement et que je trouve justifié. Et après, bah, soit les gens ont le budget pour, soit ils l'ont pas. Et ça va pas plus loin. Donc je peux négocier mon temps. C'est-à-dire que si je dis, bah, ce projet-là, moi je pense qu'il faut, je sais pas, par exemple, 4 jours pour travailler pour le faire, et qu'on me dit, bah non, mais nous on peut te payer que 3 jours, je dis, bah ok, mais du coup je bosse que 3 jours. Donc du coup, ça sera forcément un peu moins bien. Est-ce que vous êtes prêts à ça ou pas? Voilà, sauf si c'est des projets qui me tiennent à cœur, ça m'arrive. En fait, c'est pour ça que j'ai aucune marge de négociation sur mon tarif pour des projets où il y a quand même du budget. C'est parce que je me dis, je veux pouvoir me garder une marge pour tous les budgets qui me passionnent, pour les amis ou même la famille, ou un truc, je me dis, putain, ça c'est vraiment artistiquement, ça va vraiment m'éclater. Il n'y a pas de budget, et bah c'est pas grave, je le fais. Parce que je gagne bien à côté, je peux me permettre de dire, et bah allez, ça, ok, je te fais pas gratuit, mais je vais te faire, ça m'arrive de faire des, je sais pas, 70% de ristourne. Parce que le projet me botte vraiment. Et je sais que je peux le faire parce que, à côté de ça, je suis ultra ferme.
Ouais. Et ça, il y a deux trucs qui m'impressionnent. Le premier, c'est que tu, du coup, c'est ton rapport au plaisir. On en parlait tout à l'heure, moi, maintenant, mon étalon, c'est le temps libre.
C'est moi qui ai.